Nous interrompons cette pause publicitaire pour vous présenter un bout de Dupont le matin. Dupont le matin, au FM 93.
Good morning, everybody! On recommence pas en anglais, on l'a fait hier. Hey, je m'excuse de me dérumer, puis je sais que ça agace des gens. Je sais pas ce que j'ai les sinus à côté ces temps-ci. C'est probablement à cause des pissenlits. Mais non, les pissenlits sont passés date. C'est fini, les pissenlits, là?
Ça se passe à d'autres choses.
Ah, boy, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas grave. Je vais, je vous casserai pas les oreilles avec de petits problèmes personnels. Par contre... Et là, on va faire les nouvelles dans un instant. Puis je sais que c'est pas dans le bulletin de nouvelles, puis c'est pas un reproche du tout, parce qu'à un moment donné, je dirais à Pascal, mais en même temps, dans l'ensemble de l'actualité, tu sais, il y a eu, parce que j'ai feuilleté le journal vite, pour voir, puis peut-être je l'ai feuilleté trop vite, puis Pascal, je veux que tu me corriges, il y a un jeune homme qui est mort en moto hier matin.
Oui.
Le saviez-vous? L'avez-vous vu quelque part?
Non.
Non, hein? Puis c'est dans notre région. Puis ça, des fois, tu sais, je comprends que là, quand le ministre de l'Éducation lance le plan pour l'ouverture des écoles, c'est correct. Bon, là, il y a le fœtus retrouvé dans une poubelle à Montréal. Il y a la petite fille de 4 ans qu'on a suivie hier, là, à savoir comment tout ça s'est passé. Puis, je me disais, c'est un fait divers. Puis, honnêtement, ça me rappelle de drôles de souvenirs. Tu sais, mon père, il est mort d'un fait divers. Il était à pied, il traversait la rue, il s'est frappé. Il est mort. Je me souviens pas, évidemment, quand t'es là-dedans. Puis peut-être que tu recherches pas ça. Mais en même temps, quand quelqu'un perd la vie, tu te dis, OK, toi, ta job, c'est d'écrire des nouvelles. C'est facile d'aller au Parlement puis des nouvelles. Je peux te faire un journal avec tout ce qui est les inutilités et les niaiseries qu'ils vont dire au Parlement puis pas au bureau de poste, mais au bureau municipal. C'est correct.
De ville,
mais quand quelqu'un perd la vie, c'est là un jeune homme de 20 ans en moto qui, aux premières constatations, il y a un véhicule qui a tourné d'en face et lui, il y avait peut-être de la vitesse dans ce dossier-là, mais il l'a percuté. Ça arrive à un peu avant 11h hier. Pourquoi je le sais, c'est que c'est arrivé à quelques mètres de j'ai un lot à bois, moi, à la quête chemin. Et c'est arrivé à quelques mètres de chez nous. Là,
la
de...
seule place où je l'ai vu, moi, c'est sur Zone 91, que je consulte, là, qui est comme un média indépendant. Là.
OK. Tu sais, fait que des fois, je me disais, je comprends que, tu sais, là, on est dans Bellechasse ou Dorchester, là, j'ai tout le temps de la misère, mais tu sais, on est entre Saint-Léon et la Quête-Chemin.
C'est ça, c'est Bellechasse. Ouais.
C'est un jeune homme de Sainte-Justine qui est décédé, si je me trompe pas. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire, à analyser, mais il y a quand même un jeune motocycliste qui a perdu la vie hier, et je trouvais que ça vaut la peine d'être souligné. C'est tragique, c'est triste. Et quand quelqu'un perd la vie, il me semble que, tu sais, je ne sais pas, c'est une nouvelle. Des fois, il y a des accidents à Québec qui vont faire des blessés, mais on va en parler beaucoup. C'est chez nous, là. Mais chez nous, il faut avoir une vision plus large que ça. Je veux qu'on ait une vision régionale, une vision de, tu sais, une vision beaucoup plus large. Moi, juste Québec, des fois, ça vient me chercher parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de parenté à l'extérieur. Je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs en Beauce, dans Portneuf, dans...
Ben ici, au 93, on fouette large dans Tabarouette. Là.
Même à Trois-Rivières, on le voit souvent du monde qui nous texte.
Oui, effectivement, dans bien des secteurs. Puis même que, tu sais, aussitôt qu'on va réussir à mettre dans la mentalité des gens que la radio, c'est, oui, l'antenne puis le poste que vous avez dans votre char, mais qu'il n'y a plus de limite au bonheur parce que la radio ne consomme pratiquement pas de données. Si vous écoutez, par exemple, vous prenez l'application Cogeco pour écouter le 93, ben vous allez être à Abu Dhabi puis vous allez écouter le 93 alors que vous voulez, sans aucun problème, en direct, avec une qualité sonore incroyable. D'ailleurs, moi, je reste juste à Pintan, et c'est quand même, et c'est, l'avenir, elle est là. Vous savez que moi, je n'ai plus la radio normale chez nous. Puis, j'aurais pu l'avoir, mais il fallait que je débourse 400-500 piastres de plus. Sinon...
Dans ta domotique, là.
Dans la domotique, ouais, dans tous les appareils de qualité sonore que je vais acheter, tout est par Internet. Donc, iTunes ou whatever, ou l'application directe. Mais tu sais, donc ça veut dire que j'écoute toujours le 93 avec un léger délai de moins d'une minute, là, parce que sur Internet, il y a toujours un petit délai, vous allez le constater. Pardon. Mais c'est faisable. La radio est transportable. Puis, tu sais, je le vois des fois des gens m'écrire sur le Facebook, dire « Hey, comment qu'on fait pour vous écouter? On est en Estrie. » L'Internet, t'avais entendu parler de ça, Nestri, vous avez. Fait que, et ça ne consomme pas beaucoup, tu sais, comparativement à la télévision. La télévision met énormément d'emphase sur, tu sais, Bell l'a fait, Vidéotron l'a fait beaucoup, sur achète leur abonnement, là, TVA Sport, que tu peux emmener partout, pis tout ça, mais ça consomme en temps. Là, je le sais, là, je suis dans les... là, j'ai atteint ma limite d'Internet à la maison.
Ouais. C'est que à la maison?
Ouais, oui. L'autre samedi, avec Jobidon, c'est que je me suis mis une TV dehors.
Ouais.
Mais j'ai pas sorti de fil de câble pour mettre la TV dehors. J'ai un petit wise, moi. Je suis très, très intelligent, maudit innocent. Fait que j'ai pris mon iPad, j'ai mis mon Bell, donc j'ai mis ma... j'écoutais le hockey avec Jobidon dehors. Mais on a commencé à l'écouter à midi. Peut-être commencé trop de bonheur, mais j'ai mis le hockey sur mon iPad. Avec mon Bell, donc par Internet. Et j'ai un petit fil, moi, pour adapter mon iPad Apple dans ma télévision. Fait que j'ai shooté ça dans ma TV. Mais toute la journée, la TV dehors a joué en mangeant de l'Internet. Mm. Fait que là, on a mangé la banque d'Internet. Là.
Ouais.
Fait que... Mais là, je vais ajuster ça aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que la télé, c'est autre chose. Écoutez la télé dans votre voiture, sur votre cellulaire. Des fois, moi, je suis en attente quelque part. Des fois, je vais aller voir. Ça consomme beaucoup. Mais la radio, ça consomme pas. C'est très, très, très faible le nombre de données utilisées quand vous écoutez la radio.
Ah oui, l'image change tout, là. C'est ah ouais. Puis en plus, avec le HD, puis même le 4K maintenant, par rapport à du... Tu sais, on diffuse encore un MP3. Là,
ça, là, il faut... c'est quand moi, je suis allé tourner des pubs télé pour un concessionnaire auto, quand j'ai réalisé quelle était la différence entre le HD et le 4K, au niveau du de l'enregistrement, là, de l'espace utilisé pour du 4K, c'est, comme ça le dit dans le chiffre, c'est 4 fois plus.
Ah oui?
Ça prend 4 fois plus d'espace, et c'était compliqué, là, mais c'est une qualité qui est très différente aussi. Mm-hmm. Là. Fait que, voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire. Pour l'Internet, l'application Cogeco, d'ailleurs, vous voulez réécouter, j'ai mis Chum Capoté de Saint-Georges, là, les Bélangers, qui ont posté des affaires sur Facebook, qui disaient « Hey, Dupont, hérite-toi à 8 minutes quelque. » Ben, sur l'application, t'es capable de tasser le curseur de ce podcast-là, exactement à 8 minutes quelque, puis tu m'entends rire de Bélanger. Fait que tout ça est pour donc vous faciliter la tâche.
Ton accident de motocyclette, c'est dans le soleil ce matin.
Dans le soleil, il en parle?
Sur okay. le site, évidemment.
Ah oui, c'est vrai, sur le site.
On a plus le soleil papier la semaine.
Ouais, c'est le jour. L'as-tu regardé le soleil, toi, matin?
Non.
C'est ça, hein?
Non, non.
T'es trop vieux?
Oui.
Ben oui, moi aussi.
Ben oui.
J'ai le journal sans papier, puis j'ai de la misère. Je comprends, puis je veux suivre. Tu sais, nos enfants, le journal, ils le regardent plus. Là. Je veux même consulter des sites de nouvelles. Je sais pas comment ça va se traduire dans l'avenir. Tu sais, j'ai bien hâte de voir vers quoi on s'en va. Fait que autre accident pour un motocycliste qui perd la vie. Donc hier dans ce coin-là, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a perdu la vie. D'ailleurs, Pascal, toi, tes cours de moto, ça va bien?
Ça va. J'ai eu une petite frousse là.
Ah oui?
Ouais. La semaine passée, c'était mon premier cours de sortie sur route là.
Ok.
Puis on roule pas beaucoup là. On était à 50, 60 km/h, 70. Puis il y a quelqu'un qui a pris le clos.
Ok. Mais vous étiez combien?
On était 5 avec l'instructeur.
Puis l'instructeur, il est où, lui?
En avant. C'est lui qui est le chef de file, puis c'est normal. C'est lui qui nous donne les commandes, où est-ce qu'on s'en va, qui vérifie qu'on gère bien notre moto. Là, les clignotants, si on les oublie, ben, il nous fait signe, etc., etc. Si on est trop proche de lui dans la formation zigzag, là, on circule comme ça.
Oui.
Imaginez un éclair. C'est pas mal ça, la formation zigzag.
Oui.
Puis la deuxième personne qui était la moins bonne, on va dire comme ça, elle a vraiment pris le clou. Là, on a pris une courbe à gauche, puis elle l'a pris à droite.
Ouais.
Puis elle s'est ramassée sur une bonne fontaine. Là.
Elle s'est-tu faite mal?
Ben oui, mais heureusement, elle a vraiment été chanceuse, là, parce qu'il n'y a pas de blessure. Il y a une entorse à cheville, des contusions, des ecchymoses. Mais je te le dis, quand tu vois la débarque, là, tu penses que la personne est morte. Hey, t'es à 50 km/h. J'imagine pas ouais. 100 km/h ou encore plus. Là.
C'est clair quand tu le vois faire que c'est totalement inquiétant. Moi, j'ai vu un accident de moto juste devant moi aussi. La personne qui était pas très habile et qui commençait, manquait un virage. Puis je voyais, je l'ai tout vu faire, là. Moi, elle a passé droit d'un virage. Elle a vu qu'elle tournerait pas. Parce que tourner, là, c'est... Honnêtement, pourtant, ils te le disent, mais on dirait que quand des fois t'arrives dedans, ça m'est déjà arrivé des idées. C'est bizarre. Si tu veux tourner à gauche, il faut qu'avec ta main gauche, tu tires sur ta poignée de moto pour qu'elle se couche. En tirant avec ta main gauche, pour tourner vers la gauche, la moto se couche automatiquement. Puis là, on le sait, je suis capable de le dire, mais des fois, dans une situation, on dirait qu'on y pense pas, puis on a envie, on pousse avec la main droite, c'est moins efficace.
T'es quand même d'accord avec le fait qu'il faut penser à 1000 choses en même temps en moto. Si t'as jamais conduit manuel, si t'as jamais joué avec des machines, ça peut être difficile d'essayer de conduire une moto. Il faut que tu penses à plein d'affaires, puis t'as tes deux pieds qui sont sollicités, tes deux mains sont sollicitées, puis où tu regardes, c'est là où tu vas. C'est presque magique.
Ouais, c'est vrai, c'est
vrai. Tu te mets à regarder à droite pendant que tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. C'est bizarre, mais c'est ça.
Parce que c'est une question que j'avais, moi, pour vous autres, parce que vous êtes tous les deux maintenant des conducteurs de moto. Est-ce que... Moi, j'ai l'impression qu'un conducteur de voiture qui est pas bon au départ va rester pas bon toute sa vie. Là.
Surtout quand il dépasse pas la putain.
On a beaucoup d'exemples sur la route, disons ça comme ça.
C'est un site, c'est épouvantable.
Mais en moto, j'ai l'impression qu'on peut peut-être s'améliorer davantage étant donné qu'on part de plus loin.
Puis on part de plus loin, mais on part également avec l'obligation d'être excessivement prudent.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, en moto là, tu peux pas gambler. Tu sais que t'as pas deux chances généralement. Fait que tu vas être plus prudent, tu vas être plus attentif parce que tu dois conduire pour les autres. Et c'est extrêmement sérieux. Fait que je sais pas, il y a une grande prudence sur l'ensemble des motocyclistes.
Je pense qu'il faut être humble. Faut savoir le moment où t'es prêt à aller sur la route ou pas. Faut connaître tes références. Tu te sens-tu à l'aise? Tu te sens-tu pas à l'aise? Est-ce qu'il te faut un plus de circuits fermés? Il faut vraiment s'écouter. Je pense que là où l'ego prend de la place dans tes cours de moto, c'est là où tu vas te planter, tu
peut-être,
vas te faire mal.
Oui, ça va arriver. Puis il faut pas que tu te laisses influencer par ce que tu as vu, Pascal. Parce que moi, je me souviens quand je suis allé passer pour avoir mon permis de moto, j'avais juste mon temporaire. Je me souviens, les deux premières filles, on était 6 à passer l'examen en circuit fermé. Et les deux premières filles ont tombé. Fait que là, veut pas, ça a monté un peu la tension.
Ben oui.
Puis j'étais un peu nerveux. Puis sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Ben j'ai pas passé, Baptiste.
À cause de ça.
Moi, j'ai pas tombé, là, mais j'ai juste pas arrêté la roue exactement dans... Il faut que t'arrêtes la roue d'en avant dans un carré.
Ouais.
Puis l'arc de la roue m'a dépassé un peu. Fait que il manquait un point, mais en tout cas, j'ai pas passé. Fait que les 6 ce matin-là, on n'a pas passé personne.
Okay.
Fait que puis là, la madame était venue me voir, elle dit, tu t'en vas comment, toi, avec ta moto, là? T'as pas ton permis? J'ai dit, check-moi bien aller, toi.
Comme je suis arrivé.
Même méthode.
Ouais, mais c'est stressant. Là, moi, jeudi, je m'en vais sur l'autoroute pour la première fois, puis je te dirais qu'il va falloir que je respire 3-4 fois après l'accident que j'ai vu.
Ouais, c'est ça. Mais ça va bien aller. Fais-toi confiance.
Ben, ça va bien à date. Là, je peux pas croire que si je respire
ça.
Pas.
Ça va bien aller.
Mais je lève mon chapeau aux instructeurs, je ferai jamais cette job-là. Jamais. Hey, avoir une gang de tout croche, on arrive de toi qu'après. Conduire la moto.
Ben, surtout que t'es pas, tu sais, c'est difficile les cours de moto parce qu'en auto c'est facile, t'es assis à côté, puis t'as un deuxième break, puis t'es capable de parler aux ados, ceux qui conduisent.
Très bon point.
Mais tu sais, comme par exemple pour ça les cours de conduite automobile, là, probablement il y a tout un ménage à faire là-dedans, puis au ministère des Transports ils le savent très très bien, là, il y a une désorganisation complète des écoles de conduite.
Automoto en général.
Pas moto, je pense que c'est mais automobile, c'est beaucoup d'argent, hein, c'est 1000$ du cours, il y a une grande désorganisation, il y a des écoles très sérieuses, mais il y a beaucoup d'un peu n'importe quoi là-dedans, et ils le savent très bien au ministère des Transports, ils m'ont déjà contacté pour ça. Mais l'autre affaire, c'est que les jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes filles à 17-18 ans qui arrivent l'étape où ils pourraient avoir leur permis, puis leurs parents leur disent, puis ton cours de conduite, et ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas une grande confiance en elles face à l'automobile, puis ils aiment mieux s'arranger, ils retardent ça, et plus elles retardent leur formation pour conduire, plus ça devient difficile d'embarquer.
De rattraper,
oui. Ouais,
ma sœur, elle vient de le passer il y a un an. Ma sœur a 30 ans.
Ah, c'est ça. C'est une crainte, manque de confiance en elle.
Mais après ça, t'as raison, ça traîne ça longtemps, sa route, parce que du monde pas confiant puis qui ont peur de tout, sa route, on les remarque, puis sont aussi dangereux que les plus téméraires.
Ben, moi, je trouve ça extrêmement dangereux. En fin de semaine, ce qui m'a énervé, d'ailleurs, on a un segment de trafic qu'on met tout le temps, là. Fait que je embarquerai pas là, mais quand vous êtes dans une bretelle pour embarquer sur l'autoroute, je sais pas si la police pourrait donner des tickets. Ceux qui embarquent pas sur l'autoroute à 100, mettons.
J'aimerais ça.
Tu sais, ils te mettent dans le trouble. Puis je vois les gars de troc, là, les troqueurs, les vannes, là. Les gars, ils voient quelqu'un embarquer sur l'autoroute à 80. Là, ils sont obligés de se tasser. Il y a beaucoup de trafic. Là, il y a ce que j'appelle les escargots, là. Un escargot, c'est quoi dans la vie?
Ça va très lentement.
Un escargot, ça va lentement. Puis qu'est-ce que ça a comme caractéristique? Ça transporte sa maison.
Cookie,
ouais. Ah, ouais. Oui, un escargot, ça transporte sa maison. Mm-hmm, c'est exact. Donc, tous ceux qui traînent une roulotte.
C'est exact, oui.
Tu sais, tous ceux qui traînent une roulotte, traîner sa maison, ben, c'est comme un escargot, souvent, tu sais. Puis, tu sais, normalement, il chauffe un petit char, là, un genre trois cylindres, qui boit pas de gaz. Mais là, il y a un gros truck avec la fifth wheel, puis il a jamais trop chauffé ça. Puis, il part avec ça, avec 8 bécites à pédale en arrière, 3 canaux sur le dessus. Puis, la madame qui est à côté, va pas trop vite, là!
C'est plate, mais je pense que t'as raison.
Hey, sérieux, tu nous fais toute une réputation.
Non.
Oui. En passant, ta meilleure amie écoute, là, puis j'ai oublié qu'elle écoutait. Ma mère, elle vient de m'écrire. Tu m'énerves.
Ah oui, c'est vrai. Ta mère doit être inquiète de devoir faire de la moto, ça, c'est clair.
J'y vois pas, fait que.
Bon, ben, elle est en forme, ta mère?
Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai vue.
Ben, moi, tout, ça fait longtemps que je l'ai vue.
Je devrais remédier à ça, Pascal. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je vais te le redire.
Hey. OK, 7h39 minutes. Voici votre bulletin de Noël. ICP est dans son petit studio, le petit local, bien isolé ici contre le COVID, et elle nous parle d'actualité. Que se passe-t-il?
Ben, on va se parler de réseau routier, justement, d'un accident, là. C'est François Levasseur, le conducteur de 25 ans, qui est accusé de conduite avec les facultés affaiblies et conduite dangereuse causant la mort, qui a été remis en liberté en échange de conditions sévères à respecter. Ça s'est fait hier. Il était de retour en cour après avoir passé la fin de semaine dans un centre de détention de Québec. Rappelez-vous, il avait été arrêté le 15 juillet dernier après avoir frappé Philippe Véraud, qui est une connaissance, quand même mortellement. Là. Mm-hmm. Ça s'est passé sur la première avenue à Stoneham. Le jeune homme qui s'est fait frapper fêtait son anniversaire. Il est sorti, il était à pied et voilà, l'accident est arrivé sous les yeux d'autres amis qui étaient là. Quand on parle de conditions à respecter, ben, c'est un couvre-feu qui peut pas transgresser à moins qu'il y ait des suivis médicaux. Il est aussi interdit de se rendre à la souche, c'est là où il travaillait, où il se trouvait aussi dans les heures précédant l'accident. Il est possible pour lui de demeurer à deux adresses, à Stoneham, son adresse principale, mais aussi à Amqui, là, ça, c'est pas plus d'informations dans le texte de Radio-Canada. Son père a consenti à garantir une somme de 25 000 $ sans dépôt. Lui, François Levasseur, a dû déposer 5 000 $ et il est interdit d'entrer en contact avec 4 amis de la victime et de consommer de l'alcool ou de la drogue. Et ça m'amène à vous dire qu'il y avait des antécédents judiciaires de conduite avec les facultés affaiblies en 2016 et il avait aussi été arrêté pour ivresse sur la voie publique et d'avoir injurié un agent de la paix un mois avant de l'accident.
OK. Est-ce qu'on a un taux d'alcoolémie ici au moment de l'accident?
J'ai pas ça avec moi. Puis écoute, ça a pris du temps avant qu'on mette les accusations de faculté affaiblie et conduite reliée à sa conduite parce que la semaine passée, c'était pas tombé ça.
Non, je comprends, mais est-ce qu'on sait s'il a été testé? Où il a refusé et le test d'haleine et également la prise de sang.
J'ai pas ces infos-là. C'est pas comme un autre texte qu'on avait eu la semaine dernière, là, une autre nouvelle.
Parce que si on n'a pas de résultat, il va falloir démontrer son ivresse par circonstance, donc par ce que les policiers et les gens qui étaient autour de lui dans les dernières heures auront remarqué. Et ça, c'est tout qu'un job.
J'ai pas ça. Mais écoute, ce gars-là était aussi amoché. Là. La victime, bien sûr, mais le conducteur aussi. Écoute, il est encore à l'hôpital jusqu'à tout récemment, jusqu'à son séjour en centre de détention.
Donc, il y a eu des prises de sang, c'est sûr. Ah oui, parce que lui, il avait fait une sortie de route après.
C'est ça.
Et c'est pour ça qu'il a été blessé.
Il
donc,
l'a arrêté le vendredi dernier, là. C'est arrivé le 15 juillet.
Oui, c'est ça,
c'est presque trois semaines.
Oui, mais ça veut dire qu'il y a eu une prise de sang. Ouais, l'analyse sanguine a été plus longue. Et c'est suite aux résultats de l'analyse de sang qui ont pu procéder à son arrestation. Je suis un peu surpris qu'il n'ait pas donné le taux d'alcool.
Ils l'ont arrêté juste quoi vendredi dernier parce qu'il était à l'hôpital.
Il était blessé aussi.
Ils ont peut-être attendu qu'il se porte mieux. Là.
Définitivement, c'est ce qui est arrivé. Là. Ils ont attendu qu'il soit en mesure de se déplacer dans le centre de détention. Il a fallu l'amener en prison. Il a passé la fin de semaine en prison, puis okay. c'est hier qu'il a comparu.
Ouais. OK. Ouais.
Il y a aussi le pasteur Guillot qui revient dans l'actualité parce que deux des présumées victimes de Claude Guillot ont échoué dans leur tentative d'initier une action collective. Ils demandaient 4 millions de dollars contre le pasteur. Rappelez-vous, c'est ce pasteur baptiste qui est accusé au criminel de sévices physiques et psychologiques à l'endroit de 6 garçons. Il faisait l'objet d'une poursuite civile initiée en septembre dernier. Et là, ben, ça vient de tomber parce que la Cour supérieure estime qu'une action collective, c'est pas indiqué dans ce cas précis. On dit bien que la situation vécue par les personnes visées méritent toute compassion. Elles ne peuvent être autorisées à exercer l'action collective envisagée parce que, bon, il y a quand même des différences dans ce qu'ils ont vécu là, à travers ces événements-là. Et on dit qu'il y a, bon, il y a absence de questions communes à l'égard des défendeurs. C'est pour ça que l'autorisation d'une action collective n'a pas eu lieu. Et on rappelle que le procès criminel de Claude Guillot est toujours pas terminé, malgré plus de 50 jours d'audition depuis son arrestation en décembre 2015. Lui, il va revenir en cours le 30 octobre prochain.
Good.
Il y a un bébé qui a été retrouvé sans vie hier soir dans un conteneur à l'arrière d'un immeuble résidentiel. Ça, c'est dans le secteur Laval-des-Rapides, à Laval. C'est le service de police de Laval qui s'en est occupé. Ils ont reçu un appel au 911 vers 19h30. Ils sont arrivés pour voir à l'adresse indiquée dans la benne à ordures où ils ont trouvé un fœtus de bébé. Bon, inanimé, on s'entend. Le décès a été constaté sur place par les ambulanciers. On a questionné la mère. On sait que le nouveau-né serait âgé d'environ 25 semaines.
Ben, t'as peu, là, il est pas... Je t'ai entendu dire ça à 5 heures le matin, puis je me demande... Il est pas âgé de 25 semaines parce qu'il était en gestation de 25 semaines.
C'est comme ça qu'on le rapporte. C'est vraiment comme ça qu'on le rapporte. Ah mais ouais. Effectivement, c'est un bébé qui était prématuré, là, qui aurait pas dû naître à ce moment-là.
Donc, il y avait quelques heures seulement en âge oui. ou quelques minutes, là, parce mm-hmm. qu'on le sait pas, on n'était pas là. Mais donc, c'est vraiment un fœtus. Oui.
C'est 25 semaines de grossesse, un fœtus.
Bon, souvent là-dedans, ce qui est difficile à déterminer, puis c'est là, je le sais pas, jeter un fœtus, mettons là, tu sais, ça arrive, il y a des...
C'est un outrage à un cadavre. Je sais pas c'est quoi.
Mais, écoute, il y a des filles, puis ça c'est tough, là. Honnêtement, je voudrais pas vivre ça. Mm. Tu sais, il y a des femmes qui tombent enceintes et qui voient leur fœtus ne pas vivre pour différentes raisons, de malformation, n'importe quoi, et ils font ce qu'on appelle une fausse couche.
Oui.
Et des fois, les curetages ont pas lieu tout de suite. Tu sais, ça prend un certain temps. Tu sais, il y a des femmes qui vivent avec, à l'intérieur d'eux, un fœtus mort ouais. pendant quelques jours et des fois quelques semaines. S'il sort, est-ce qu'ils ont le droit de le mettre au vidange?
Parce qu'il est mort.
Mm. Ouais, parce qu'il est mort. Ils savent, là, tous les tests à l'hôpital ont été faits, puis ils te renvoient chez vous. S'il sort à ce moment-là...
C'est-tu considéré comme un cadavre? Je sais pas, là, tu sais...
C'est une excellente question.
Moi, j'ai une amie, il y a longtemps, elle avait fait une fausse couche au cégep. Puis, mais tu sais, là, c'était un œuf vide, là. C'était pas un fœtus, là. Puis, tu sais, c'est du sang, c'est... Puis ça va, était à la salle de bain. Il y avait du sang partout, c'était épouvantable. Mais je connaissais pas ça du tout
non,
à cette époque-là.
Atroce,
mais, tu sais, elle a pas commis de crime. Elle avait fait une fausse couche. Mm-hmm. Donc, cette femme-là met au monde un enfant au bout de 25 semaines. On s'entend pour une chose... De nos jours, un bébé prématuré de 25 semaines, si les conditions sont à peu près normales, il va survivre. Donc, est-ce qu'il était vraiment décédé au moment où elle l'a mis au monde?
Il serait mort-né. Il serait, ouais,
selon
c'est
elle.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle a confié aux enquêteurs et qu'on aura à savoir si c'est ça, la vraie version.
Ouais, c'est ça. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on a comme méthode pour voir si... le bébé était vraiment mort né. Mmh. Je pense que quand il est né, s'il a respiré, je pense qu'ils vont être capables de le voir. Tu comprends? Parce que quand il est à l'intérieur de la femme, ça marche par le cordon ombilicate. Je connais pas trop ça, ouais. Là, tu sais. Je l'ai fait deux, mais...
Le cordon ombilicate.
Oui, mais c'est parce que... Quand on fait des autopsies à la suite d'incendies, par exemple, oui. on est capable d'aller voir dans les poumons et tout ça. Peut-être qu'on sera en mesure de faire comme ça. Mais là, écoute...
C'est ça. Je sais pas. Puis, est-ce qu'il y aura des accusations contre la femme dans les deux cas? Est-ce qu'on a vraiment besoin de déterminer si l'enfant était mort-né ou s'il est mort parce qu'elle n'a pas donné ou procuré les soins? T'sais, si, au moment, elle a vu qu'elle allait accoucher, si elle avait appelé le 911, est-ce qu'on aurait pu sauver le bébé?
Dans le fond, t'sais, est-elle responsable de la mort du fœtus ou pas?
T'sais? C'est ça.
Est-ce qu'elle a laissé aller les choses ou pas?
Ouais, ça va être extrêmement difficile à déterminer de ce côté-là.
Parce que si le fœtus est expulsé mort, là, excusez, malheureusement, on est cru un peu à matin, mais tu sais, on va appeler ça une mauvaise réaction, mais elle n'aura pas créé la situation.
Je comprends. Oui, mais est-ce que dans le cas de criminel, on a le droit de le jeter? Je pense pas.
Ta question est excellente, j'en ai pas la moindre idée.
De toute façon aussi, j'aimerais bien savoir, j'ai vu la benne à ordures tantôt, là. Ouais. Tu sais, je sais pas comment elle l'a jeté, là, mais ou bien elle a échappé du sang, ça a patente. Comment ils ont fait pour trouver ça?
Ben oui, c'est ça.
Tu sais, c'est une immense benne à ordures. Puis elle l'a jeté, mais un petit
c'est
bébé.
Les policiers qui l'ont trouvé?
Ouais, mais tu sais, il a eu un appel.
Ben, c'est ça, ben, c'est.
Il y a quelque chose de pas clair dans, ouais, dans
le pion. Il y a eu un appel, c'est pour ça qu'ils se sont déplacés, là.
C'est ça, mais quelqu'un qui a vu de quoi, ou bien qu'elle l'a dit à quelqu'un qui était enceinte, puis là, elle était pas enceinte le lendemain. Mm. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, là. Il s'est passé quelque chose, c'est certain. Et ça s'est passé en quelques heures, tu sais, avant que les vidanges soient ramassées, là. Fait que, c'est allé quand même rapidement. C'est une triste histoire,
J'ai même un peu plus d'infos qui viennent de sortir dans les dernières secondes pendant qu'on parlait. Et c'est une femme âgée de 36 ans, c'est ce qu'on confirme. Et il y a un homme de 44 ans aussi qui vont comparaître aujourd'hui en chambre criminelle au palais de justice de Laval.
Est-ce que tu as les accusations?
Sous des accusations qui n'étaient pas encore déterminées en début de matinée. Alors, c'est pas encore déterminé. Leur lien avec le bébé non plus est pas connu.
Donc, ça me fait réfléchir. Ça me fait dire que, donc, assurément, tu peux pas même s'il était mort-né, tu peux pas le jeter au vidange. Je sais pas quel est l'article de loi, là, mais tu sais, c'était pas clair dans ma tête, puis ça aurait dû l'être. Il me semble que s'il y avait pas de loi là-dessus, faudrait se dépêcher d'en adopter une. Tu peux pas te départir d'un fœtus si c'est le cas. Donc, s'il était mort-né, n'importe comment.
Mais déjà, que ce soit dans les nouvelles, c'est intriguant. Donc, il y aura fort probablement des accusations. Ça laisse aussi sous-entendre ça. Il y a une autopsie du cadavre qui sera réalisée aussi pour préciser l'âge exact du bébé, à savoir s'il aurait pu vivre ou pas, là, comme tu dis. Fait que c'était de bons questionnements que tu as eu ce matin, Stéphane.
D'ailleurs, il y a eu d'autres renseignements dans la journée d'hier sur, ici à Québec, la petite fille de 4 ans et demi qui est décédée dans une piscine. Mm-hmm. Est-ce qu'on sait comment elle a accédé à la piscine?
Comment est-ce qu'on sait exactement? J'ai pas seulement ce que j'ai su, c'est qu'elle aimait ça, aller se cacher, puis elle attendait à ce qu'on la retrouve, là.
Mais, OK, parce que j'ai cru comprendre que certaines personnes auraient confirmé qu'il y avait vraiment des clanches. Mais tu sais, hier, on en parlait, il y a un auditeur d'ailleurs qui nous a écrit nous dire que ses enfants, lui, de 4 et 6 ans, étaient capables d'ouvrir n'importe quelle barrière de piscine avec la fameuse petite clanchette qu'on connaît. Alors, je voulais juste savoir si, à cet endroit-là, tout était sécuritaire, mais que la petite fille savait comment ouvrir c'est fort possible. 4 ans et demi, là, est capable d'ouvrir une barrière de piscine, d'après moi. Fait que...
S'il n'y a pas de cadenas, là, une genre de petite affaire comme une clôture normale en métal.
Oui, tu sais, il y a une barre qui rentre, là, puis l'autre se rabat par-dessus. Ouais. Là. Fait que...
C'est ce qu'une fille de 4 ans est capable de faire aussi. Traîner une chaise de plastique, de patio, que ce soit.
Je sais pas.
Ah, je te le confirme, moi.
Ouais. Mais pour faire quoi?
Pour grimper.
Pour grimper, pourquoi?
Pour passer par-dessus la clôture, juste parce que la piscine est là. En tout cas, moi, j'en ai une qui est de même.
Ah, je sais. Est-ce que tu te choques?
Est-ce que je me...
Ça doit être... Je te dirais pas quoi faire comme
non,
père.
Mais intervention pas musclée, là, dans le sens de taloche.
Non. Mais la sanction la plus sévère que tu vas lui donner, il faut là-dessus que tu sois intransigeant.
C'est clair, parce que... écoute, c'est drôle. C'est pas drôle pantoute, excusez, mauvais mot. On en a parlé hier soir au souper.
OK.
Justement, parce que au dîner, la plus jeune était là, puis elle était toute seule avec ma blonde et moi. Je suis parti à pleurer, là, quand j'ai dit « Hello ». T'auras pas deux chances.
Ouais. C'est ça.
Ça va arriver une fois, puis ça va être terminé. Puis là, ben, tu prends les images pour les enfants. Tu te dis, ben, cette petite fille-là, elle reviendra jamais, là.
Mm-hmm.
Y a pas de chance qu'elle revienne.
C'est ça. T'sais. Est-ce que Hello, elle sait nager?
Elle est excellente pour nager.
Bon, fait que, mais.
C'est la chance qu'on a, mais encore là.
Sauf que, oublie pas que où la petite fille de 4 ans et demi semble, de ce que moi j'ai su, où elle est tombée, il y avait une toile solaire.
Oui, exactement.
Elle s'est renageant sur une toile solaire, c'est plus tough un peu.
On lui a parlé. Elle savait pas que ça existait, mais on lui a dit, écoute, il y a des gens qui veulent garder leur piscine plus chaude, mais.
OK, toi, t'as pas de toile solaire?
Non, j'ai pas de toile solaire, non.
Bon. C'est peut-être. Je comprends, ça coûte plus cher, mais c'est peut-être plus safe en même temps. Même malgré que la petite fille, je sais pas si elle savait nager. Mais comme parent, en tout cas, une chose est sûre, on a deux affaires à faire. Être extrêmement sévère sur l'approche. Tu sais, je vous disais, moi, c'est pas toujours fermé chez nous, la piscine creusée. Puis je comprends qu'il y a des réglementations. Mais moi, 100 pieds plus loin, il y a un lac. lac n'est pas clôturé,
non,
lui.
Non, non, c'est
puis il y a un barrage. Puis tu peux aller direct sur le bord du barrage. Là, puis...
Mais le lac n'est pas à toi. Fait que t'auras pas ça sur la conscience toute ta vie.
Non, je sais. Question de conscience, c'est correct. Mais il est dans ma cour, tu sais, ou presque. Là. Fait que, mais tu sais, moi, avec les enfants, c'était et au bord du lac et sur le trottoir de la piscine. Okay. Tu mets les pieds sur le béton, ça va mal aller en sacrifice. Mmh. Puis la deuxième job que j'avais, c'était le plus rapidement possible de leur apprendre à nager.
Ah, c'est clair.
Puis, je me souviens, je me chicane pas souvent. Je ne t'ai pas chicané vraiment, là, c'est parce qu'on avait pris la boisson, mais je m'étais astiné avec Marteau, Napoli, notre ancien collègue.
Marteau, pas nager, lui. Hein,
j'ai pas nagé. Puis, il se promène avec 80 livres de clé. Après, tu sais, lui, il est comme un gars dans les moulous, là. Il a toujours un trousseau de clé.
Puis, 80 livres de pipe aussi.
Ouais, c'est ça. Il peut pas nager parce que, premièrement, il a les bras bien trop gonflés. Ouais. Ça déplie pas tout le temps. Fait que... Tu sais, j'y disais, mais voyons donc, comment tu peux avoir une piscine, un enfant, puis toi-même pas savoir nager en cas qu'il arrive quelque chose. Tu sais, arrête de t'habiller trop pesant, puis tu sais, il est gêné de se mettre en costume de bain. Je comprends qu'on n'a pas tous des corps d'Adonis, là.
Comme toi.
Mais ouais. C'est ça. Fait que, OK. Ensuite?
Ensuite, je te parle de la fillette de Granby. Encore, ça revient ce matin. Il y a eu des manquements à toutes les étapes du processus clinique et légal qui visait à la protéger. Cette jeune fille qui est décédée à Granby en 2019. C'est ce que dévoile l'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a été rendue publique ce matin. Bon, la Commission a émis une série de recommandations aux instances gouvernementales. Ce qu'on peut lire, c'est que l'organisme estime, entre autres, que le point de vue de l'enfant doit être entendu et pris en compte. L'enfant doit aussi être rencontré régulièrement par les personnes qui interviennent auprès de lui. Quand tu lis ça, puis tu connais des gens qui travaillent auprès de la DPJ, des fois, tu dis, ouais, OK, est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont les ressources, les outils? Une journée a 24 heures, puis tu travailles pas pendant 24 heures. Un peu plus loin, il y a un paragraphe. La commission recommande également au ministre de la Santé et des Services sociaux de se pencher sur les conditions de travail des intervenants de la protection de la jeunesse pour s'attaquer aux problèmes de recrutement et de rétention du personnel qui sévit là, depuis quelques mois et encore. Là.
Good. J'espère qu'ils vont regarder ça. Puis en même temps, j'aimerais aussi que les gens qui sont déjà en poste s'assurent d'en donner suffisamment. Tu sais, parce que on a. Ce que je trouve juste pas normal là-dedans, c'est que on a ciblé, entre autres, la région de Granby, et il y avait beaucoup de...
En Estrie, c'était complexe.
C'était terrible. Ouais.
Mais c'est sous enquête en ce moment en Estrie.
Oui,
aussi.
C'est ça. Donc, oui, il y a une pénurie de personnel probablement, puis il y a un manque d'effectifs à travers le Québec dans tout le programme de la DPJ. Mais dans ce coin-là, il y avait ça plus la négligence parce que ils ont vécu des problèmes majeurs puis on voyait qu'il y avait un grand laisser-aller là dans ce secteur-là. D'ailleurs, des gens qui ont démissionné, il y a des gens qui sont partis. Ça démontre clairement qu'il y avait du laxisme à cet endroit-là qui était majeur. OK. Et tu termines? Tiens, oui, en terminant.
Ben, mettons, la nouvelle de la journée hier, c'était celle du masque obligatoire pour les élèves de 10 ans et plus dans les lieux communs de l'école, sauf en classe. C'est l'annonce du ministre de l'Éducation qui a remis son plan à jour. Un plan qui était sorti initialement en juin dernier. Et là, on s'est dit, il faut faire des modifications. Ça a été fait. Le ministre s'est dit conscient des nombreuses questions et inquiétudes des parents et du personnel. Parce que ça prend 3 semaines et on va être déjà dans la rentrée. Mais c'est dit confiant de réussir l'importante étape pour les jeunes du Québec. Du côté de l'opposition, on est un petit peu plus mitigé. On déplore que la question du rattrapage scolaire se retrouve nulle part dans le plan du ministère pour des gens qui ont manqué plusieurs mois d'école. Il y aura du rattrapage à faire et on clame le fait qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires, d'argent supplémentaire qui est ingéré dans le dossier.
Prochaine chose, ça va être la réglementation sur le port du masque, mais sur ce qui est écrit sur ton masque. Tu sais, parce que je voulais en faire fort pour les enfants quand j'ai entendu ça hier.
Ouais.
J'ai haï l'école. T'es folle.
Je veux rien savoir.
Hein?
Je veux rien savoir.
De la marde des devoirs. tu passes tes messages sur ton masque.
Ah oui, ben, quand tu m'en éduques, j'ai mal aux genoux.
Ah,
c'est les enfants qui savent pas lire, qui se promènent avec ça, puis ils savent pas ce qui est écrit. Oh, il est écrit « J'aime l'école
». Ah, c'est ça.
Toi, sur le tien, il est écrit quoi?
« Fuck l'école
».
Non, c'est rien écrit sur le mien, je te parle. C'est ça que je voulais faire. OK. 7h56 minutes, vous êtes dans Dupont le matin. On est mardi aujourd'hui. Quelques instants de pause et on revient.